Donc, on peut imaginer la souffrance de ces patients. Il y a vraiment un réel retentissement sur le sommeil, sur la qualité de vie. Et on peut imaginer qu'ils soient très mal. Alors, lorsqu'on a donc un syndrome des jambes sans repos pharmacorésistant, toujours rechercher les facteurs aggravants, la ferritinémie, rechercher les causes organiques ou psychiatriques et ne pas hésiter à changer de traitement en cas d'insomnie, en cas de troubles anxieux généralisés ou de neuropathie associée, de mettre un alpha-2-delta, donc Neurontin ou Lyrica. En cas de prise d'agoniste dopaminergique et associé, en cas de dépression, prendre un agoniste dopaminergique, des opiacés pour les recrudescences passagères, et bien adresser, ne pas hésiter à adresser le patient à un psychiatre parfois, parce que la dépression, comme l'a dit Lorraine, aggrave le syndrome des jambes sans repos, et le syndrome des jambes sans repos est pourvoyeur de syndrome dépressif, et donc parfois on est dans un espèce de cercle vicieux, où finalement on n'arrive plus très bien à comprendre ce qui se passe, et une prise en charge psychologique ou psychiatrique peut tout à fait aider à améliorer les patients. En cas de ferritinémie basse, la supplémentation perosse ou en intraveineux, et en cas de iatrogénie, donc d'effets secondaires, alternative par un autre, c'est les patients qui sont sous antidépresseurs. Peut-on arrêter l'antidépresseur? Ça, c'est à revoir avec le psychiatre. Il faut ne jamais arrêter un antidépresseur sans l'avis du psychiatre ou du médecin qui l'a mis en place. C'est important. Et parfois, on est amené à mettre un agoniste dopaminergique en plus. Enfin, dans le syndrome des jambes sans repos pharmacorésistant, ne pas hésiter à faire des bithérapies pour justement essayer d'améliorer le patient. Dernier point, c'est le syndrome d'augmentation. Enfin, donc pour la prise en charge du syndrome d'augmentation, la définition, comme vous l'a dit Christophe, c'est l'aggravation des symptômes au moins 5 jours sur 7 avec une réponse paradoxale au traitement, c'est-à-dire au lieu d'améliorer les symptômes, le traitement va les aggraver, même si souvent très transitoirement lors de l'augmentation, effectivement le patient se sent un peu mieux pendant quelques jours, avec l'heure de survenue des symptômes qui s'avancent, soit 4 heures plus tôt par rapport à la période sans traitement dopaminergique. Et c'est là l'importance de bien avoir phénotypé le patient initialement pour bien rechercher ces 4 heures d'avance de survenue des symptômes, soit entre 2 et 4 heures, avec soit un délai plus court d'apparition des symptômes au repos. Avant, ça apparaissait au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, c'est au bout de 5 minutes de repos. Des symptômes plus intenses, ou des symptômes qui touchent d'autres parties du corps, et notamment lorsque ça commence à toucher les membres supérieurs, on peut tout à fait se poser la question de l'apparition d'un syndrome d'augmentation. Pour prévenir ce syndrome d'augmentation, c'est vraiment, si on reprend le terme d'IV, un traitement participatif. Il faut un suivi régulier du patient par un spécialiste du syndrome des jambes sans repos pour éviter que ça n'apparaisse. Il faut éduquer le patient, lui expliquer que cela peut arriver, qu'il n'augmente pas de lui-même son traitement, parce qu'ils ont tous tendance, hélas, parfois à dire « Oh, avec 2 comprimés, ça allait bien, maintenant ça va plus, maintenant j'en prends 2,5, et puis 3, et puis ils ne nous appellent pas forcément avant d'augmenter les doses. » Donc, dès la première mise en place d'un traitement par agoniste dopaminergique, expliquer au patient de ne pas augmenter la posologie. Toujours revoir de façon régulière la posologie, essayer de la diminuer au maximum, lorsque c'est possible, en fonction des fluctuations de sévérité des symptômes, parce qu'on a toujours tendance à augmenter les traitements, mais rarement on essaie de diminuer les doses, et ça c'est regrettable. Et en cas d'aggravation donc, du syndrome des jambes sans repos, syndrome d'augmentation, oui, traiter les facteurs favorisants, donc la dose élevée d'agoniste dopaminergique, donc on essaie de baisser, une ferritinémie basse, on augmente la ferritinémie, revoir les habitudes de vie. La iatrogénie, donc on est tous d'accord pour arrêter la L-DOPA en cas de syndrome d'augmentation. Et en tout cas, pour les autres traitements neuroleptiques, antidépresseurs, antihistaminergiques, en discuter avec le patient et voir si on peut les arrêter ou les diminuer. Et enfin, rechercher les comorbidités dont vous a déjà parlé depuis tout à l'heure, l'insomnie, la dépression, les douleurs chroniques, le syndrome d'apnée du sommeil ou les neuropathies. En cas de syndrome d'augmentation du syndrome des jambes sans repos, donc cliniquement significatif, on traite tous les facteurs favorisants, je n'y reviens pas. Si l'intensité de ce syndrome d'augmentation est faible ou modérée, eh bien on peut essayer de conserver l'agoniste dopaminergique en passant soit un agoniste dopaminergique à demi-vie plus longue que ce qui était le cas auparavant, soit en gardant le même agoniste mais en avançant un peu l'heure de la prise, en diminuant éventuellement la dose aussi. La dose nous paraissait trop importante, ou au contraire augmenter un peu la dose d'agoniste si elle nous semblait un petit peu trop basse. Et éventuellement ajouter un peu de codéine ou de tramadol chez ce patient qui est sous agoniste dopaminergique. En cas d'échec de cette conduite à tenir thérapeutique, on considère le syndrome d'augmentation comme sévère. Et dans ces cas-là, il faut passer à un sevrage en agoniste dopaminergique. Et comme vous l'a dit Christophe, finalement, on a tous notre façon de faire. Et dans la littérature, rien n'est dit réellement sur la façon de faire. Soit un sevrage brutal, avec ensuite une période libre sans traitement pour bien réévaluer les symptômes. Puis, à nouveau, réintroduire un traitement, soit un sevrage sur 8 à 10 jours avec une période libre, ensuite libre de traitement, puis réintroduction d'un nouveau traitement, soit un sevrage progressif simultanément à l'introduction du nouveau traitement. Mais on est tous d'accord pour dire que ce sevrage ne doit pas durer des jours et des jours, 8 à 10 jours au grand maximum. Et le choix entre ces trois bras, c'est soit selon l'habitude du médecin, soit aussi, finalement, face au patient, on décide un petit peu ensemble ce qui est faisable et lui, comment il envisage un peu ce sevrage, parce que ce n'est pas simple d'être sevré en traitement par agoniste dopaminergique en cas de syndrome d'augmentation et de la dose prise aussi également. Et puis, il faut aussi leur expliquer que parfois, ils vont aller mieux en sevrant. Ils ont du mal à l'admettre, mais finalement, d'arrêter les agonistes, pour certains patients, ça les améliore. Ça ne fait pas disparaître le syndrome des jambes sans repos. C'est exceptionnel, mais en tout cas, ça les améliore clairement. Et si cela est un échec, on considère alors le syndrome des jambes sans repos comme pharmacorésistant et on revient à l'autre consensus. Donc, je dirais, c'est un peu à la carte, mais en tout cas, il faut vraiment sevrer le patient. Donc pour conclure, le syndrome des jambes sans repos, c'est une prise en charge personnalisée, participative. Il faut vraiment informer le patient sur sa maladie, sur la façon de gérer son traitement. On a différents types de traitements en France, mais qui sont non remboursés. Et ça, on insiste tous là-dessus, parce que si les patients sont effectivement en général remboursés parce qu'on ne met pas sur l'ordonnance non remboursable, mais on devrait le faire. Ici, vous avez un ordre de prix des boîtes. Pour une boîte de Sifrol, 30 comprimés de 0,18 mg, c'est 5,33 euros. Enfin, pour le Nepro, une boîte de 7, pas comprimés, mais patch de 2 mg, on est à 13,67 euros. Donc si on imagine ça sur un mois, il faut multiplier par 4. Hein, donc on est proche de 60 euros par mois. Ce n'est pas donné pour tout le monde. Donc vous avez ici un ordre de prix par boîte et non pas par mois. Enfin, et enfin, c'est un traitement qui doit être avec des posologies à ne pas dépasser. Pour ceux qui ont l'AMM, donc le Sifrol, on s'est arrêté, notre groupe de travail, le groupe de consensus a dit 0,54 mg au maximum pour éviter le syndrome d'augmentation. Pour la Dartrelle, s'il y a 2 mg, on n'a pas d'efficacité, on a conclu qu'il ne fallait pas augmenter au-delà, alors que pour le laboratoire, on peut aller jusqu'à 4 mg. Pour la rotigotine, 3 mg au maximum pour éviter là aussi le syndrome d'augmentation. Pour la gabapentine, la prégabaline qui n'ont pas d'AMM, je vous le rappelle, là très peu de risques a priori de syndrome d'augmentation, l'avenir nous dira, mais a priori peu de risques. Le groupe de consensus a décidé de ne pas dépasser 300 mg de Lyrica, ce qui à mon sens fait déjà une dose très importante avec des effets secondaires qui sont loin d'être négligeables en général. Et pour la gabapentine, 1200 mg en une prise, en sachant que si on a besoin de prendre plusieurs prises, on peut aller jusqu'à 1800 ou 2400 mg par jour. Et pour le tramadol libération prolongée, 100 mg. Je vous remercie pour votre attention et on ouvre les questions.